Bonjour messieurs, dames, bonjour les auditeurs, bienvenue dans l'émission Grand Large sur Fadjet 94.2, l'émission présentée par les jeunes hommes de la propédeutique de Lorraine à Nancy.
Ouais.
Autour de la table, il y a Maxence.
Bonjour.
Baptiste.
Bonjour.
Et Julien.
Bonjour.
Et moi-même, Pierre-Emmanuel. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier. À la propédeutique, on s'est rendu compte qu'on recevait des journaux et qu'on lisait aussi un petit peu. Donc, c'est une émission sur le thème... La revue de presse. Chacun de nous a préparé un article qu'il a interpellé, qu'il a lu récemment dans la presse, et va le présenter, et on va un petit peu échanger, voir ce que ça apporte à tout le monde. Eh bien, Julien, est-ce que tu veux commencer, s'il te plaît ?
Je veux bien. Alors moi, là, j'ai un article que j'ai vu dans le Figaro Magazine, qui date d'à peu près une semaine et demie. Mm-hmm. Ça consiste, en fait, ça concerne nos chers amis de Outre-Manche, les Britanniques. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un vote fait... le Brexit.
Ça ne nous a pas échappé.
Merci Baptiste.
Et donc ce vote, en fait, donc 51,8% des Britanniques se sont prononcés pour la sortie de l'Angleterre, donc du Royaume-Uni, pardon, de l'Union Européenne.
Ouais, c'est ça. Ça a été de justesse qu'ils ont...
Voilà, de justesse. Donc c'est vrai que beaucoup se sont sentis floués et vraiment... Voilà, ils ont vraiment eu un choc vraiment à ce niveau-là, et ils n'imaginaient pas les conséquences que ça allait avoir. Alors j'ai quelques chiffres qui attestent vraiment. Alors il y a une conséquence vraiment assez importante de ce Brexit. C'est surtout les Britanniques qui demandent la nationalité française. Alors
D'accord. Ça
c'est assez important.
Déjà en parlant du Brexit, Maxence, tu avais entendu parler de cette histoire, je pense quand même un petit peu.
Ah oui, on a parlé de ça pendant des mois et des mois.
Oui. Tu savais que ça s'était aussi joué peut-être à un cheveu, comme il l'a dit, à 51.
Oui, j'avais entendu ça aussi, okay. Oui.
Vas-y Julien, continue s'il te plaît.
Oui, donc pardon. Donc les Britanniques, j'ai quelques chiffres. Alors, entre 2015 et 2017, en 2015, on avait 386 Britanniques qui ont demandé la nationalité française, 1363 en 2016 et, hallucinant, 3173 en 2017. Donc il y a une hausse vraiment hallucinante, vraiment forte en deux ans.
Merci Julien. Baptiste et Maxence, vous attendiez à une hausse si forte justement, par exemple, ou est-ce que vous en aviez entendu parler de ça ?
Alors moi, ça m'étonne vraiment. Parce que j'avais comme habitude, ou du moins en observant la réaction des Anglais ou même de l'Angleterre dans les affaires européennes, que l'Angleterre traînait vraiment la patte. Et donc, moi, je m'imaginais que la majorité des Anglais
seraient
favorables, vraiment.
C'est vrai qu'ils ont toujours été un peu à part entière, déjà par l'économie. Hein, ils avaient toujours leur propre monnaie. Puis bon, ils sont autre manche, un peu sur leur île. Maxence, toi, tu avais entendu parler un peu de ça
Alors, pas du tout. J'avais pas du tout entendu parler de ces chiffres, mais ça montre quand même un certain attachement des Britanniques à l'Europe, au point qu'aujourd'hui, ils demandent à être rattachés à un pays de l'Union Européenne, puisque le leur le quitte.
Oui,
et donc, c'est bien représentatif quand même d'une part importante quand même de cette population qui souhaite rester européenne.
Parce que pour préciser, Julien, en fait, ils prennent bien la nationalité française. Hein, ils n'ont pas les deux nationalités, ils abandonnent. Ah non, c'est ça.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils demandent vraiment leur passeport français pour pouvoir vraiment avoir la nationalité française et que la nationalité française. Les Britanniques, ils l'abandonnent complètement.
Ah ouais, totalement. Et est-ce qu'ils vivent, par exemple, encore en Angleterre ou ça,
alors,
tu sais un peu ou...
Alors effectivement, ils vivent dans le pays. Ils résident en général dans le pays. Et il faut quand même bien qu'ils résident dans le pays dans lequel ils demandent la nationalité. Alors j'ai quelques chiffres. Il faut savoir qu'on estime à 1,2 million de Britanniques qui vivent dans un pays membre de l'Union Européenne. Et les principaux pays d'accueil des Britanniques, c'est surtout l'Irlande. Alors comme c'est le pays qui est juste à côté, on va dire que c'est plus simple. Il y a aussi l'Allemagne, la Suède et l'Italie. Ce sont des pays qui accueillent beaucoup, beaucoup de Britanniques, et la France aussi.
On parle souvent de migrants en ce moment, mais il y a des fois, on ne s'attend pas à ce que ça soit des propres migrants européens. Je ne sais pas, Baptiste, tu en penses quoi?
Moi, ça m'étonne beaucoup. La question que j'aurais, c'est, on peut dire donc que les Anglais vraiment regrettent le Brexit?
Alors, les Anglais regrettent le Brexit aujourd'hui. Il y a quand même une bonne partie de ceux qui ont voté pour le Brexit, donc pour la sortie de l'Union Européenne, qui aujourd'hui regrettent leur vote, au point que un sondage a été fait. Il y a au moins la moitié de ceux qui ont voté pour la sortie qui regrettent aujourd'hui leur vote.
Ça, c'est incroyable.
Et on sait pourquoi ils regrettent. C'est parce qu'il y a eu des retombées forcément économiques. Ils ont, comme ils se sont séparés de l'Europe, il y a eu des retombées économiques sur leur pays. Ou alors, ils s'inquiètent de ça.
C'est ça.
Je sais qu'au point de vue déjà de leur monnaie avait pris déjà un petit coup, je crois, et même pour ce qui est des investissements.
Un gros coup, même.
Un gros coup. C'est surtout que, effectivement, comme tu dis, l'économie a joué beaucoup. La livre sterling, enfin, le cours entre la livre sterling et l'euro s'est quand même fortement réduit, au point qu'il y a eu un exode massif de Français qui sont allés en Angleterre pour aller faire des achats assez importants parce que voilà, tout était beaucoup moins cher.
Ah, ça m'interroge. Maxence, toi qui es du nord de la France, de Cambrai, est-ce que tu as été faire tes courses en Angleterre justement suite à ça?
Pas encore, je vais souvent, quelques fois à Londres.
Chers auditeurs, je vois Maxence qui se frotte les mains d'avoir entendu ça.
Je vais souvent à Londres en tant que simple touriste, mais on ne croise pas des Anglais dans le nord de la France tous les jours. Mais la proximité explique aussi un peu cela.
Oui, bah oui.
C'est vrai que j'avais, pour reprendre, quand vous parliez un tout petit peu d'économie, j'avais lu dans un article très récemment que la livre avait vraiment beaucoup perdu en bourse notamment et que l'euro commençait à remonter. Et l'article parlait notamment de l'effet Macron, mais moi j'aurais plutôt tendance à parler d'un effet Brexit alors.
Ah oui, complètement. Le vote a vraiment eu un effet, un raz-de-marée outre-Manche. Vraiment, ce sentiment vraiment d'un coup, il y a tout qui s'effondre à côté de soi et de se dire, bah voilà, finalement, ils vont devoir se débrouiller tout seuls. Et ça, ils l'ont finalement voulu, quoi.
Bah oui, et puis malheureusement, ils y voudraient presque, on a l'impression, en revenir, quoi.
Ah oui, si c'est comme je vous ai dit, si jamais ils refont le sondage aujourd'hui par rapport au Brexit, le résultat serait absolument pas le même.
Et justement, est-ce que la population avait essayé de, parce que comme ils ont changé de premier ministre depuis alors, tout ça, est-ce qu'ils ont essayé d'interpeller Theresa May ou...
Alors justement le fait qu'ils ont changé de premier ministre, c'est parce que David Cameron a échoué, parce que lui était largement pour se maintenir dans l'Union européenne. Du coup, Theresa May a pris la suite entre guillemets par choix, enfin par obligation, parce qu'il fallait bien mettre un autre premier ministre à la place, plutôt pour le Brexit. Et elle voit aujourd'hui qu'elle est complètement démunie parce que effectivement elle n'a plus beaucoup de soutien. Et c'est surtout je reviens juste en vitesse
sur la
raison. En fait, il y en a beaucoup qui ont justifié la sortie de l'Union européenne par un certain financement qui n'a jamais vu le jour, et donc ils ont voté pour des personnes qui leur ont promis des choses et finalement ils les ont pas eues.
D'accord. Voilà. Eh bien, écoute, merci Julien. Merci pour cette petite démonstration d'un article que tu as lu récemment. Chers auditeurs, nous allons marquer une courte pause, juste le temps de passer une petite musique, Johnny Cash, Solitary Man, et nous revenons juste après.
Melinda was mine till the time that I found her, holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue. But that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear, be and where, love's a small word, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done, having one girl who loved me, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and will play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man. Thank you. Don't know that I will, but until love can find me, and the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man.
Et nous voici de retour à l'émission Grand Large, l'émission sur Fadjet 94.2, toujours présentée par les jeunes de la propédeutique de Nancy.
Ouais.
Alors maintenant, je vais donner la parole à Baptiste. Baptiste, oui. de quoi tu vas nous parler? Qu'est-ce Alors, que tu as lu dans
et
la
entendu
presse
surtout?
Alors, je vais vous parler des Vosges.
Oh. Ah, oh. Parce que Baptiste, tu es Vosgien, c'est ça?
C'est ça, je suis Vosgien. Et donc, à la propédeutique, on est originaire de beaucoup de régions différentes. Et les Vosges sont malheureusement victimes de clichés.
Là, exactement.
Je regarde bien mon voisin qui est Mosellan. Voilà.
Et t'en as qu'un pour le coup.
On va éviter ce genre de sujet. Restons sur l'article, s'il vous plaît.
Exactement.
Messieurs.
Je vous en prie.
Exactement. Alors, je vais parler d'économie dans les Vosges, ce qui est encore plus choquant.
Une économie dans les Vosges.
Il y a une économie dans les Vosges.
Merci,
c'est justement
Julien, pour le commentaire. Merci.
C'est justement pour répondre à ce genre de cliché que j'ai choisi cet article, puisque c'est vrai que les temps sont assez difficiles pour les Vosges. Ça n'aurait échappé à personne. Le taux de chômage avoisine les 13%.
13%. Oh. Oui.
Ça
oui,
te surprend, Maxence, un peu. Oui.
Oui, oui, oui. Parce que c'est pas forcément un département très peuplé qu'on croirait un peu dynamique avec le tourisme, mais le chiffre me surprend.
Mais justement, parce que le tourisme est certes florissant, mais l'emploi souffre énormément. La population a perdu 5000 habitants en 7 ans. La population vieillit majoritairement. Et
parce que tu parles d'économie, parce que moi je suis un peu comme Maxence. L'économie, je pense qu'il n'y a que du tourisme ou il y a autre chose un
Non,
peu
alors l'économie vosgienne, au départ, était basée sur des entreprises, principalement la filature, de l'industrie, de l'artisanat. Et depuis quelque temps, avec vraiment la crise économique, par exemple, deux grosses entreprises, une énorme papeterie et une poterie, ont fermé l'an dernier. Il y a toujours ces entreprises-là qui ferment. Mais les Vosges se réinventent dans l'industrie du luxe de l'excellence.
Ah, c'est pas le cas en face. Hein.
C'est étonnant.
Pardon.
Merci Julien pour ce commentaire.
Je vous en prie.
Et donc, j'ai trouvé un article dans Vosges Matin qui fait une rétrospective économique sur l'année 2017 et donc met l'accent sur des initiatives ou sur des entreprises, des secteurs qui sont pleins d'avenir. Donc, j'ai quelques exemples sous les yeux. Notamment, il y a une usine à Saint-Dié-des-Vosges qui s'appelle Gantois, qui est un sous-traitant d'Airbus.
Mmh. Ah oui, quand même. Donc, au final, on ne s'attend pas forcément à ce que ce genre de choses soit fait dans les Vosges, au final.
Et on a peut-être certains... sans doute entendu parler que Airbus a vendu 430 avions début décembre, et donc c'est une bonne nouvelle pour tous les sous-traitants, y compris celui-ci. Donc c'est une perspective d'emploi naturellement pour le local.
Oui, donc c'est
local.
Bien, tu disais que c'est que au point de vue de l'économie, c'est un peu comme ce qui se passe dans un peu partout, c'est qu'il y a des fois des entreprises qui ferment, mais au final, que les Vosges ont su garder un savoir-faire et au contraire, le montrer en avant. Ça te parle un peu, Maxence? Tu aurais entendu parler de ça, par exemple, qu'il y ait des pièces d'avion Airbus qui étaient faites
Absolument pas. Moi, des Vosges, je connaissais que le tourisme et les arbres. Et je suis très content. Ouais. Oui. Et je suis très content d'apprendre que Airbus est implanté dans les Vosges. C'est impressionnant.
Enfin, un sous-traitant, c'est ça, Baptiste.
Un sous-traitant. Mm-hmm. Une entreprise qui fabrique des turbocompresseurs également. C'est installé à Thaon-les-Vosges. Qui est, il me semble, le plus gros fournisseur d'emplois pour le département. Et donc, comme je le disais, les Vosges mettent beaucoup l'accent sur le luxe, sur l'industrie du luxe et sur des choses que tout le monde connaît, notamment l'Invosges. Je pense que tout le monde connaît l'Invosges.
Oui, le linge de maison, c'est ça.
Voilà, qui a plus de 90 ans et donc qui s'est beaucoup agrandi cette année.
On en a une belle démonstration chez nous à la propédeutique, car Baptiste a son linge de maison en Linvauge, c'est ça, je crois, non?
C'est presque ça. C'est du linge de maison vosgien. Oui, oui.
Ah, donc on te voit le matin avec ta petite serviette et tout, c'est ça, dans les couloirs.
Je fais de la publicité, mais c'est important.
Tu as bien raison. Tu as des autres exemples, par exemple?
Oui, il y a les casseroles de Buyer. Alors, c'est moins connu, mais...
Les casseroles, tu veux dire, comme quand on fait de la chorale à la propédeutique et que Julien chante faux?
Ah non, ce n'est pas les mêmes casseroles.
Merci pour cette réflexion.
Je t'en prie, Julien.
Merci. C'est des casseroles dont Pierre-Emmanuel se sert dans sa cuisine, mais je ne suis pas sûr qu'on en ait.
Malheureusement, on n'en a pas, sinon j'aurais été un plaisir, parce que je suis en charge de la cuisine à la maison, et malheureusement, non, on n'a pas.
Entreprise
pas
créée en 1830 et qui s'est beaucoup agrandie également l'an dernier, il y a une grosse extension.
Mais on les voit, oui, fréquemment, des fois à la télé, les grands chefs, ils en ont quand même.
Oui, justement, là tu mets l'accent sur quelque chose d'important, c'est que aujourd'hui, donc les Vosges misent sur l'excellence et également l'excellence de ses artisans. Et j'ai également un exemple, celui d'Anthony Châtelain, qui a été couronné meilleur menuisier du monde à Abu Dhabi lors des Olympiades des métiers en octobre 2017. Parce que les Vosges travaillent beaucoup le bois, ça Maxence l'avait bien souligné.
Oui.
Épinal est la capitale mondiale du bois. Et en effet, il y a beaucoup de scieries, beaucoup de...
C'est étonnant.
D'entreprises de meubles.
Oui, je savais qu'à Mirecourt, il y avait... Mirecourt, c'est la lutherie, c'est ça.
C'est la lutherie de Mirecourt, ouais. Oui. Oui, tout à fait.
Tiens, Maxence, si tu veux nous faire une soirée culturelle, on pourrait parler de Mirecourt. Car Maxence est notre ministre de la culture à la maison. Donc...
Oui, bon, je ne sais pas combien de temps ça durera, mais pourquoi pas
T'as pris au dépourvu, là, à vous.
Mais pourquoi pas, sur les violons de Mirecourt, bien sûr.
Oui, puis voilà, c'est aussi, tu voulais dire, Baptiste, qui a un savoir-faire, mais pas seulement local, mais que ça s'exporte, hein, parce qu'il est allé à votre artisan,
oui,
là, de
fait.
Votre menuisier, enfin, menuisier ou charpentier.
Menuisier
est allé jusqu'à Abu Dhabi, c'est ça, pour...
Oui, il y a, comment ce qu'on appelle, les meilleurs artisans du monde,
oui, voilà, oui. C'est un peu comme...
Il y a beaucoup de concours comme ceux-ci, et les Vosges, j'aime bien mettre en avant... ce savoir-faire, notamment dans le bois.
Oui, parce qu'il est logique.
Et dans des entreprises qui sont basées depuis très longtemps. Et donc, aujourd'hui, pour faire vendre vraiment quelque chose qui est plus de l'ordre du luxe, on mise sur l'ancienneté et sur un savoir-faire qui s'est transmis
qui s'est
depuis
installé
longtemps.
Depuis quelques années, d'accord. Est-ce que tu as d'autres infos, d'autres exemples?
Oui, par exemple, certains connaissent peut-être les camions Transalliance, ceux qui ont un logo qui ressemble à celui d'Orangina.
Absolument.
Alors, Maxence, est-ce que ça tu connais? Ça roule jusque dans le nord de la France?
Oui, certainement. Oui, ça me parle un petit peu. Oui.
Ah, ils viennent chercher les bêtises de Cambrai pour les exporter, car messieurs, dames, Maxence est de Cambrai.
Ou des bonbons des Vosges.
On a une bonne bêtise en face de nous. Hein.
Oh. Merci, Julien.
Je vous en prie.
Et donc Transalliance diversifie ses activités avec 50 emplois à la clé. Alors c'est sûr, c'est loin d'être suffisant face à un taux de chômage qui est effarant,
oui.
Mais ça fait chaud au cœur de voir des perspectives d'avenir.
Oui, bah oui. Puis bon, après, mis à part, il y a aussi quand même l'économie touristique un peu quand même. Hein,
l'économie touristique ne s'est jamais aussi bien portée. On prie toujours pour qu'il neige l'hiver et pour qu'il fasse beau l'été. Malheureusement, le climat nous écoute pas forcément.
Mais ça, je trouve que c'est intéressant. Hein. On voit que malgré les difficultés de climat, ils ont su s'adapter. Julien, ça te fait...
Oui, alors tout à fait. Et puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le week-end dernier, donc avec toute la propédeutique, nous avons fait un week-end dans les Vosges, justement. Nous sommes allés à la Bresse, sur les terres vosgiennes.
On leur passe le bonjour à nos auditeurs vosgiens, je suis sûr qu'ils nous écoutent.
Un grand bonjour, et on a passé un week-end vraiment formidable, et j'ai pu remarquer en allant et en venant sur les routes de la Bresse, à quel point effectivement, comme on disait, c'est vrai qu'il y a pas mal d'entreprises, il y a des villages où vraiment, là où il y avait une grande diversité industrielle, il y a grand chose, ou du moins.
Ça s'est sinistré. En fait, les Vosges ont été touchés de plein fouet par la concurrence industrielle, puisqu'au 19e siècle, l'industrie était florissante en Lorraine, et d'ailleurs, pas seulement dans les Vosges, la Moselle a aussi beaucoup souffert. Ça, et.
Oui, messieurs, dames, Julien et Moselle en voilà, c'est pour ça
oui,
que Baptiste dit ça.
Je me permets d'attaquer le Vosgien.
Ça, c'est normal.
D'accord. Maxence, est-ce que tu as une question pour Baptiste ou.
Oh, peut-être pas une question, mais une remarque, c'est que malgré son taux de chômage effarant, les Vosges restent le plus beau département de Lorraine.
Ah, merci.
Oh. Non, ça c'est faux. Mais
Oui, nous en resterons là.
J'ai bien vendu
sur
mon
Vosges.
Département.
Voilà. Eh ben, merci Baptiste. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire sur l'économie vosgienne?
Non, je pense que c'était pas mal. Que c'est important de faire connaître vraiment les initiatives dans les Vosges pour vraiment résister aux clichés qui ont la vie dure.
Mais en dehors de toute animosité, de toute blague, il faut reconnaître que le beau pays vosgien est florissant et très développé.
Oh,
et beau à voir.
Et beau à voir.
Messieurs, dames, nous resterons sur ce commentaire de Julien. Nous allons marquer une seconde pause musicale avant de changer d'interlocuteur. Et nous allons écouter une musique de Sting, Englishman in New York. À tout de suite.
tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
Et nous voici de retour à l'antenne sur Fadjet 94.2 dans l'émission Grand Large sur la revue de presse. Maxence, de quoi vas-tu nous parler ? Pardon, messieurs, dames.
Alors, moi, je vais vous parler d'un article qui est paru dans le journal La Croix hier et qui parle de ce sujet que vous avez peut-être entendu. C'est la publication ou la tentative de publication par les éditions Gallimard des écrits antisémites de Céline. Alors, c'est un projet qui a été initié au Québec et que...
Tu peux juste expliquer en quelques mots qui est Céline, s'il te plaît.
Oui, alors Céline, c'est un des plus grands écrivains français de la première moitié du XXe siècle. Son ouvrage le plus célèbre, c'est Voyage au bout de la nuit, ça vous parle peut-être.
Tout le monde connaît.
Oui, Baptiste et Julien, vous connaissez. Julien, tu connaissais aussi Céline un peu
de... Alors oui, de nom, c'est vrai que je suis pas un grand niveau lecture, mais c'est vrai que en termes, j'ai déjà entendu parler de cet écrivain et c'est vrai que on en a beaucoup parlé effectivement dans la fin 20e quoi.
Mademoiselle n'a pas été touchée par la littérature.
Baptiste.
Pas chez moi en tout cas.
Continue Maxence s'il te plaît.
Louis Ferdinand Céline de son nom complet, il a obtenu le prix Renaudot d'ailleurs avec ce livre Voyage au bout de la nuit. Mm-hmm. Et donc, Gallimard souhaitait publier trois petits recueils de Céline, qui est connu pour être un antisémite notoire et un collaborationniste. C'était un pro-nazi et il a écrit plusieurs recueils que Gallimard souhaitait publier. Alors, pour vous donner une idée de ces recueils par les titres et de ce qu'ils contiennent, donc Bagatelle pour un massacre, L'école des cadavres et Les beaux draps.
Tout un programme. Voilà, sympathique.
Ce sont les trois écrits que Gallimard souhaitait publier, mais des associations se sont élevées contre cette publication.
Ah, bien sûr, oui, ça doit être
étonnant.
Les associations de défense des juifs, et Gallimard a reculé.
D'accord.
Et ces écrits n'ont pas été publiés, donc ça pose quand même une question de fond, c'est peut-on ou doit-on republier aujourd'hui des ouvrages sulfureux ?
Eh ben, excellente question. Baptiste, as-tu un avis?
Ah, l'historien que je suis a forcément un avis.
Tu as fait des études.
J'ai une formation d'historien. Ouais. Et c'est vrai que ça pose une question. Ça pose la question de la mémoire et surtout d'assumer toute notre histoire, dans tout ce qu'elle a de plus contestable, puisque c'est vrai que Céline reste un grand écrivain. Et donc, faut-il.
Écrivain reconnu, hein, Maxence. Écrivain disait reconnu. Qu'il a été à deux doigts de gagner le concours, c'est ça?
Oui, oui, toujours avec ce même ouvrage, Voyage au bout de la nuit.
On étudie encore Voyage au bout de la nuit. Dans tous les cours de littérature.
Excuse-moi Baptiste, je laisse la parole à Julien. Julien, tu avais entendu parler de cette histoire ou est-ce que ça te choque ou ça te fait réfléchir?
Non, je n'avais pas entendu parler de cette histoire-là. Effectivement, comme disait Baptiste, ça pose une question. Enfin, c'est-à-dire, c'est vraiment, ça pose vraiment une question de fond. Et effectivement, peut-on effectivement publier? Peut-on tout simplement tout publier? Alors moi, je peux avoir un avis parce que dans le sens où...
Je t'en prie, donne-le nous.
Mais je vais me faire plaisir. Et donc du coup, ils ont publié il y a de cela quelques années, je pense que... Je ne sais pas si tu le sais, Mein Kampf, du coup.
Oui, bien sûr, Baptiste. Ça posait la même question.
Et voilà, et ça posait exactement la même question de savoir est-ce que un écrit quand même qui a été fait par Adolf Hitler, est-ce que ce truc-là doit être entre les mains de n'importe qui et surtout entre les mains de quelqu'un qui apprend et qui voilà peut à la rigueur penser que c'est un peu plus light que...
Ça pose toutes les questions sur tout ce qui est liberté d'expression après, hein. Maxence, oui.
Oui, alors Gallimard n'a pas abandonné son projet de republier ses écrits.
Oui, parce que ça a été arrêté, hein. Ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout, c'est ça?
Oui, ils ont reculé, mais ils veulent en fait faire intervenir plusieurs spécialistes, des historiens, des philosophes, qui compléteraient, qui expliqueraient le contexte de l'époque et la mentalité de l'époque, ce que Céline voulait dire, donc recontextualiser un peu les textes qui n'étaient pas forcément le cas dans cette histoire que nous avons.
C'est un peu comme il y a des personnes qui critiquaient Hergé pour Tintin en Afrique un peu.
Si
tout le monde a lu Tintin, je pense quand même, et que nos auditeurs aussi, on voit à un moment Tintin qui donne des ordres à la population locale d'un Afrique, ça fait un peu colonialiste
les
tout
clichés,
ça.
Les clichés, Baptiste, beaucoup de clichés. Mais c'est vrai que je serais plutôt d'avis d'assumer tout ce qui a fait partie de notre histoire et notamment les écrits. Et de se souvenir de ce que ça a été et surtout de ne pas l'oublier. Et je trouve que ça fait partie de l'oubli ou de ce qu'on appelle l'historiquement correct, d'oublier certaines parts de notre histoire.
D'accord.
Et je trouve ça vraiment dommage.
D'accord. Julien, est-ce que...
Alors moi, justement, je voulais rebondir sur ça. On a donc, malheureusement, il y a eu ce terrible drame des attentats à Charlie Hebdo, justement.
Oui, c'est vrai, parce qu'on peut penser à ça aussi, quoi. Qu'est-ce que c'est dans la situation actuelle.
Est-ce que, justement, on peut tout publier? Est-ce qu'on peut... Parce qu'on se souvient des caricatures de Mahomet, on se souvient de tous ces unes là de Charlie Hebdo qui ont fait vraiment polémique. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire voilà, on peut publier ce genre de choses, parce que voilà, on voit tout de suite que ça fait une polémique monumentale quand il y a des caricatures de Mahomet, mais par contre quand c'est des caricatures effectivement d'autres religions, effectivement là il y a beaucoup moins d'émoi, et effectivement le fait que ça soit un peu plus minoritaire aujourd'hui joue peut-être.
Ou même des caricatures de la Vierge, ça nous parle,
Baptiste,
encore plus pour nous.
Oui, c'est vrai. D'accord. Maxence, est-ce que tu as autre chose à ajouter?
Oui, on est dans une culture aujourd'hui du politiquement correct qui empêche justement de traiter tous ces sujets, des caricatures de Mahomet.
Ah, c'est vrai, oui.
Ou ici, même si c'est issu d'un des plus grands écrivains français, d'écrits à caractère antisémite. On se prive aujourd'hui d'une part, comme le disait Baptiste, importante de notre patrimoine, et c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui.
Eh bien, cette question, je crois qu'on se l'est tous posée. Merci Maxence.
Mais je vous en prie.
Chers auditeurs, notre émission est déjà malheureusement finie. J'espère que tous les thèmes que nous avons abordés vous ont intéressé ou au moins vous ont diverti quelques instants. En souhaitant merci à mes trois compères qui étaient là. Merci Maxence, merci Baptiste, merci Julien.
Merci à toi.
Et puis en vous souhaitant une bonne journée. La prochaine émission, c'est sur les migrants, je crois. Voilà, dans l'émission Grand Large.
C'est ça.
Et bah, au revoir. Au revoir à tous. Messieurs, on dit au revoir, s'il vous plaît.
Au revoir.